Que peut la science pour la cité? Que peuvent les femmes pour la science?
France Inter, les savantes. Lorraine Bastide.
Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Je suis très heureuse de vous retrouver en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invitée est sociologue de la littérature. Bonjour, Kaoutar Archi.
Bonjour.
Kaoutar Archi, vous êtes docteur en sociologie de l'Université Sorbonne Nouvelle, enseignante à Sciences Po en sociologie des arts et de la culture et chercheuse post-doctorante au département de recherche du musée du Quai Branly. Vous êtes l'autrice de ce livre sorti en 2017, Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. Dans cet ouvrage, vous analysez les trajectoires de 5 écrivains algériens qui ont eu du succès en France et démontrez toute l'ambiguïté de la consécration de leur travail. Vous me démontrez aussi la ligne qui sépare le français du francophone et les résidus coloniaux qui persistent jusque dans l'acceptation de ces écrivains au sein de la communauté littéraire française. Nous aurons l'occasion d'y revenir en détail dans la troisième partie de l'émission. Vous êtes donc sociologue, Kaoutar Archi, et comme je sais que la perspective de genre n'est jamais oubliée dans votre travail, je vous pose sereinement la question rituelle des savantes. Que peuvent les femmes pour la sociologie ?
Alors vous avez raison, c'est une question qu'il vaut mieux poser sereinement, parce qu'elle peut appeler divers types de réactions. Je crois que les femmes, si j'utilise cette expression, c'est toujours compliqué de dire les femmes, on ne sait pas vraiment de qui on parle. Je crois que ce qu'elles peuvent essayer de faire, je crois que moi-même et un certain nombre de collègues, c'est à ça que nous nous attachons, de développer des travaux, ou en tout cas de tenter de développer des approches qui tente de rompre avec une certaine idée de la science, une certaine idée de la production du savoir qui jusqu'à présent reposait sur des rapports de force qui étaient tacites, qui étaient masqués, qui étaient voilés par l'institution et par la naturalité de la science elle-même. Donc je crois que mon travail se situe là, c'est-à-dire d'essayer de penser la sociologie de la littérature en l'occurrence, à travers ce que je suis, à travers les expériences sociales, justement, qui m'ont forgée.
En essayant de faire rupture, donc.
En essayant de faire rupture, parce que je crois que c'est tout ce que je sais faire, faire rupture. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec la notion de continuité, avec la notion de choses qui seraient pré-écrite à l'avance.
Vous vous intéressez à un pan de la sociologie très particulier, la sociologie des arts et de la culture. Alors j'aimerais soumettre à la sociologue que vous êtes un petit cas d'école, une polémique qui a secoué la société française assez récemment et qui, je pense, a forcément dû vous intéresser aussi. Elle concerne une jeune chanteuse.
Pour moi, la polémique, en fait, elle était erronée, elle était fausse, parce que tout ce qu'on disait sur moi, c'était faux, c'était pas moi, c'était une fausse image, donc je me reconnaissais même pas. Quand j'entendais parler de moi, je disais, mais de qui on parle?
Sauf que les postes étaient exacts.
Oh, bien sûr, oui, les postes étaient exacts, mais l'interprétation était erronée, l'interprétation qu'on a pu faire, c'était un amalgame. En fait, on m'a prêté des mauvaises intentions, et c'est ça qui était le plus difficile.
Donc vous avez peut-être reconnu sa voix, il s'agit de Ménel, cette jeune candidate du télécrochet The Voice, exclue de la compétition en raison de tweets qu'elle avait postés il y a quelques années et qui ont été exhumés par l'extrême droite. Je ne me reconnaissais pas dans ce qu'on disait de moi. Est-ce que ça vous parle quand elle dit ça?
Oui, ça me parle parce que je crois qu'il est important d'entendre et d'essayer de comprendre ce qu'elle a à nous dire sur l'affaire dans laquelle elle a été prise. L'histoire même de cette affaire, c'est la difficulté d'entendre la voix, à la fois la voix chantée, la proposition artistique qui était la sienne dans le cadre de cette émission musicale, mais aussi la voix du sujet politique qui essaie de s'exprimer. Je crois que moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans cette affaire, entre guillemets. C'est, dans un premier temps, peut-être avec un peu de distance historique, la nécessité de la resituer, de la replacer dans l'histoire très longue et très complexe des rapports qui lient la France avec l'idée de migration, avec l'idée de l'altérité. Et, dans un point de vue peut-être plus immédiat, en effet, c'est d'essayer de voir comment une certaine forme de prise de parole fait socialement l'objet de critiques. Donc on évoquait avant la problématique de genre, c'est-à-dire d'essayer de soumettre le social à cette domination masculine qui régit les rapports sociaux. Je crois que dans cette affaire aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette récurrence, cette espèce de bruit de fond qui inclut aussi la nécessité de penser le rapport social de race, entre guillemets.
Oui. C'est pas simplement une chanteuse, c'était une chanteuse femme d'origine musulmane.
Exactement.
Nous allons revenir en détail sur cette drôle de science qu'est la sociologie de la littérature, sur votre parcours et sur ces écrivains algériens qui vous fascinent, après l'écoute de M.I.A. Bad Girls. Hiérarchie, avant toute chose, reposons quelques bases au sujet de la discipline que vous représentez aujourd'hui, la sociologie. Alors la sociologie, c'est la science de la société, des liens entre les individus et les institutions. Un livre sorti il y a peu, intitulé « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation » et écrit par un physicien, Pablo Jensen, explique qu'il est vraiment compliqué de modéliser les comportements sociaux. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que la sociologie, après 200 ans d'existence, on doute encore qu'elle soit vraiment une science ?
Je crois qu'effectivement, il y a encore des espaces. Ici, le cas d'un physicien, mais il est peut-être significatif de beaucoup d'autres choses. La sociologie continue effectivement à faire débat, elle continue à poser problème. Alors, ce physicien dont vous parlez explique qu'il est difficile de modéliser les comportements. Alors, ça tombe très bien, puisque je crois que la sociologie n'aspire pas à modéliser les comportements, elle aspire à les comprendre, elle aspire à essayer de déployer le point de vue des individus, des groupes qui vivent des expériences, qui agissent, et c'est de cette manière-là qu'on peut interpréter. Donc, je crois qu'il y a ce statut très important de la sociologie en tant que pratique, qui est cette question de l'interprétation. Et là-dessus, effectivement, on peut débattre, on peut même ne pas s'entendre. Mais je crois que, surtout, le fait que la sociologie continue à agiter est finalement bon signe. Il y a quelque chose là d'une forme de blessure narcissique de certains groupes dominants qui refusent d'être nommés, qui refusent d'être compris dans leur violence. Et je crois que notre rôle, il est là, il est de nommer la violence.
Il est de nommer et puis de débiologiser, de démentaliser les comportements humains et les rapports sociaux. Voilà, enfin, vous parliez de dominants. Il y a une partie de la classe politique qui n'apprécie pas trop les explications sociologiques qu'on peut donner à certains comportements, qui accuse le sociologue de charrier de l'uniformisation, de penser les femmes, les musulmans, les pauvres, plutôt que de penser l'individu. Je pense notamment à Manuel Valls qui a dit on ne peut pas expliquer le terrorisme par la sociologie. Comment expliquez-vous ces résonances dans le monde politique en particulier?
Je crois que les hommes politiques parlent beaucoup de la sociologie. Je crois que l'un des principaux problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils ne la lisent pas, cette sociologie. Or, il suffit très simplement de se rendre sur Internet et de se rendre compte de la quantité d'articles et dans les bibliothèques, les librairies de livres qui sont produits. Donc, je crois qu'il y a déjà cette première étape qui est très importante à faire pour les hommes et les femmes politiques. Et surtout, effectivement, comme vous le disiez, ce sont des agents, ce sont des acteurs de la vie politique qui aiment à naturaliser l'ordre social, qui aiment à expliquer que finalement les choses sont ainsi et qu'il y aurait une forme d'inéluctable de l'inégalité, qu'il y aurait une forme de fatum social qui pèserait sur nous et que malgré tous leurs efforts, ils ne parviendraient pas à renverser la vapeur. Je crois qu'il est très important de reprendre ces questions en considérant que le principal objet de la sociologie, et quels que soient les champs sur lesquels on peut se pencher, la question a été posée, c'est celle de la naturalisation, comme on dit souvent, des rapports de force. C'est-à-dire le fait de considérer, par exemple, qu'un rapport de force n'est pas un rapport de force, qu'un rapport de force ne serait qu'un rapport de communication, ne serait qu'une simple relation, ne dépendrait que d'un tempérament ou d'émotion. Or, même si on accorde une importance très importante aux dimensions microsociales, je crois qu'il est important aussi de replacer tout ça dans un contexte bien plus important, qui est le contexte structurel, par exemple. De replacer la question familiale, de replacer la question religieuse, la question sociale, économique, et d'essayer de voir comment, à travers ces structures-là, agissent de telle manière à produire des croyances. Et ce sont ces croyances sur lesquelles on tâche de travailler.
Vous parlez de l'histoire aussi, vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'était quelque chose aussi d'important.
Oui, bien sûr.
Pour resituer dans un contexte, bien l'histoire, sûr, c'est essentiel.
La nécessité de redonner au contexte qui peut paraître plat du fait de son immédiateté, une sorte de profondeur de champ, une nécessité de considérer que ce qui nous apparaît comme nouveau, en vérité, peut-être ne l'est pas, mais se présente à nous sous une autre forme, sous une autre allure, sous une autre apparence. Et que derrière ces formes d'irrégularité, de nouveauté, il y a quelque chose qui s'exprime et qui est une loi sociale, qui est la persistance d'un rapport de domination ou d'inégalité.
Donc la sociologie apporte du relief. Hein. Et quand on dit sociologie, on pense évidemment à Pierre Bourdieu. Oui. J'aimerais maintenant qu'on écoute quelques instants sa voix.
Critique sociale du jugement, j'entends, bon, c'est le titre, il y a un titre célèbre de Kant, enfin, que je pastiche de façon un peu ironique, enfin, bon, Kant a écrit une critique du jugement qui prétendait être une critique pure du goût, enfin, bon, il essayait de répondre à la question qu'est-ce que goûter, qu'est-ce que préférer, etc. Et j'essayais de faire, disons, la même chose avec de tout autre moyen, j'essayais de montrer que dans les classements sociaux que nous opérons, quand nous mettons une cravate, nous mettons pas une cravate, quand nous mettons une cravate à poids, une cravate unie, quand nous achetons une Mercedes ou une de chevaux, quand nous faisons du yoga ou du rugby, etc. Tous les choix que nous faisons qui ordinairement sont imputées au goût et aux couleurs. Enfin, ce sont ces choses qu'on impute au fond à la nature. En fait, je pense que tous ces choix ont leurs principes dans la société et dépendent d'une part de notre formation, notre éducation, de l'ancienneté de notre éducation, de notre milieu, de notre capital scolaire, etc.
Donc ici, Pierre Bourdieu parle sur le plateau d'Apostrophe de son livre « Distinction » sorti en 79. Où réside la difficulté d'une sociologie de la culture en particulier ?
La grande difficulté de cette sociologie, c'est que on pourrait être constamment envahi par le fait de considérer que finalement, comme le disait Pierre Bourdieu, et puis comme vous le disiez auparavant, tout ça est naturel. C'est naturel que des jeunes de banlieue, comme on les appelle, aiment le rap. C'est normal que des enfants qui sont plutôt issus des classes supérieures favorisées aiment ou qu'on leur apprenne à aimer l'opéra, etc., etc. Donc il y a une forme de naturalisation constante de ce qui touche à la culture. C'est d'autant plus difficile que dès qu'on entre dans des arts comme la littérature, mais aussi comme le cinéma ou d'autres formes artistiques, ce qui prime, c'est cette forme de singularité de l'artiste. Et là encore, cette figure historique de l'artiste, elle est très fortement construite et elle est généralement nimbée, elle est généralement lovée dans ce qu'on appelle en sociologie l'idéologie du romantisme. C'est-à-dire cette idée que finalement, le monde de la culture et le monde des arts en particulier seraient séparés de la société, seraient en dehors d'elle. Et que sur ce monde des arts et de la culture ne pèserait aucune loi sociale, que ce serait un monde complètement autonome. Or, tout le travail de Pierre Bourdieu, et je pense notamment à cet ouvrage important qui date de 1992 et qui s'intitule « Les règles de l'art », c'est bien de réinscrire le littéraire et le culturel de manière plus globale dans la société. Et de considérer que ce monde-là, qui est souvent considéré comme un monde éloigné des formes de domination, au contraire, ces formes de domination, elles y agissent. Et c'est là où on peut progressivement commencer à déconstruire, d'une part, cette idéologie romantique, et qu'on peut comprendre, pour reprendre la formule de Pierre Bourdieu, qui crée les créateurs, par exemple.
Votre discipline universitaire à vous, donc, c'est la sociologie de la littérature. C'est une branche assez minoritaire, hein, parfois même un peu contestée. J'ai lu cette définition dans un petit manuel écrit par l'une de vos consoeurs, Gisèle Sapiro, qui était donc une élève de Pierre Bourdieu. La sociologie de la littérature étudie principalement les relations entre texte et contexte.
Oui, c'est une formule qui est très juste et qui appelle de nombreux commentaires. C'est vrai que avant ce texte important de Pierre Bourdieu, Les règles de l'art, on adoptait soit une démarche que l'on dit externaliste, c'est-à-dire que l'on considérait surtout l'extérieur du texte, l'extérieur de la littérature, ou au contraire, ce qu'on appelle une démarche internaliste, c'est-à-dire qu'on ne considérait que son intériorité, que l'intérieur du texte. Or, la rupture qu'introduit Pierre Bourdieu, c'est bien de comprendre que finalement, il faut tenir ensemble les deux dimensions. À la fois ce qu'est le texte, la manière dont il est composé, mais la manière dont l'espace dans lequel il est produit contribue à cette composition. Et c'est là, effectivement, où les choses deviennent de plus en plus passionnantes.
C'est parce qu'on veut imaginer l'artiste, comme vous l'expliquez très bien, comme un espèce de cas particulier, quoi. C'est forcément unique. C'est Baudelaire, c'est forcément Baudelaire. C'est pas le 19e, c'est pas tout
exactement.
Ce qu'il y a autour.
C'est un peu ça. Exactement. Et c'est d'autant plus intéressant que vous parliez du cas de Baudelaire, que Baudelaire a fait partie d'une génération d'écrivains et de poètes qui ont absolument tout fait, tout mis en œuvre pour pouvoir se construire comme libre, pour pouvoir se construire comme totalement détaché de la vie sociale, de la vie économique, de la vie politique. À tel point qu'ils ont développé cette idée qui est encore très présente aujourd'hui dans nos esprits, de l'art pour l'art finalement, de la littérature qui n'aurait pour finalité qu'elle-même. Or, dire cela, cette affirmation très forte d'un modernisme esthétique, c'est une forme de naturalisation. C'est un déni de la manière dont la littérature est produite, c'est un déni des individus qui ont la capacité et surtout les possibilités de produire cette littérature, et c'est aussi d'une manière ou d'une autre vouloir la couper et assumer cette coupure à l'égard des exclusions qu'elle produit, notamment à l'époque du Second Empire, des femmes par exemple.
Est-ce que la sociologie est le meilleur outil ou la meilleure science pour comprendre le racisme et le sexisme ?
Je crois que ce sont des phénomènes tellement gigantesques dans ce qu'ils veulent dire, dans les souffrances qu'ils créent, dans les économies inégalitaires qu'ils participent à produire, que la sociologie ne peut pas se prétendre avoir le monopole de ces questions-là. Je crois que les travaux d'Étienne Balibar en philosophie, par exemple, sont des plus importants. Je crois que les travaux aussi de féministes matérialistes, comme Colette Guillaumin, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur les relations entre domination raciale et domination sexiste, sont très importants. Et que les travaux aussi des historiens comptent. Donc je crois que ce cela appelle, c'est une forme de coalition des savoirs, on pourrait dire, où la sociologie tient évidemment un rôle important pour tenter de comprendre cette nécessité perpétuelle et perpétuée de produire de l'altérité et de la naturaliser.
Je m'élance et je danse en silence, si langue heureusement. Pense bien plus longue et plus lente qu'une transe à mille temps. Souple, je suis souple. Quand je flanche, je me planque et je mange une mangue.
C'était Camille avec Langue. Et ça tombe bien, on va maintenant parler de votre travail où il est question, beaucoup, de langue. Kaoutar Archi, vous avez grandi à Strasbourg dans une famille modeste. Ni la sociologie ni la littérature ne font vraiment partie de votre environnement quand vous grandissez. Ça l'intéresserait sûrement Pierre Bourdieu ?
Oui, ça l'intéresserait sûrement. Ça m'a déjà intéressé, moi, beaucoup de... Oui, de vivre cette expérience étonnante et d'autant plus étonnante quand j'y repense aujourd'hui. Je ne sais jamais vraiment quoi dire sur cette famille.
Il n'y avait pas vraiment de questions.
Voilà, c'est ma famille.
Alors, vous avez une caractéristique que j'ai lue d'habilement depuis le début de l'émission afin de ménager mon effet. Mmh. Vous êtes aussi romancière. Mmh. Vous avez publié votre premier roman, Zone cinglée, à 22 ans. Et depuis, deux autres romans, L'ampleur du saccage, qui a reçu le prix Tide Monnier. Et enfin, À l'origine, Notre père obscur. Qu'est-ce qui vous a attiré en premier, la sociologie ou la littérature ?
Je crois vraiment, si j'essaie de me souvenir de la manière dont les choses se sont présentées à moi à l'époque, que l'impératif était surtout de quitter ma famille, en fait. On parlait avant de nécessité de rompre. Je crois que je viens de là, fondamentalement. Je crois que je viens de ce sentiment précoce que j'ai eu pour de multiples raisons, que rester là où j'étais née ne serait pas une bonne chose. J'avais un souci fondamental avec la question des origines. Et donc du coup, j'ai considéré qu'il était important de partir pour tenter de ne pas, oui, de ne pas faire souffrir les gens qui m'entouraient, mes parents et mes sœurs. Je crois qu'à l'époque, j'ai considéré que le fait d'écrire serait une manière de marchander, je pourrais dire, ce départ. Voilà, j'ai dit que je partais pour écrire des livres. Et ma mère était très rassurée, évidemment, puisqu'elle me percevait comme dans une bibliothèque qui, cette fois-ci, ne serait plus strasbourgeoise, mais parisienne. Donc ça a été une manière de préserver des liens et de les arracher à la violence crue que pouvait signifier ce départ.
Peut-être que le roman, c'est un objet aussi qui est plus facile à appréhender que la sociologie pour
oui.
Votre maman, j'imagine.
Tout à fait. Disons que chez moi, des livres restent des livres. C'est-à-dire que tout est livre. Dès qu'il y a quelque chose d'écrit, c'est un livre. Il n'y a pas de perception plus précise que cela. Mais je crois que par la suite, lorsque j'ai commencé à imaginer ce départ, je n'ai pas voulu partir pour rien. Je me disais... Partir pour se soustraire à une forme de destin commun n'est pas suffisant. Il faut réussir à faire quelque chose de cette rupture. Et je trouvais que le livre avait ceci d'intéressant, qu'il permettait l'affirmation d'une existence publique. Et je crois que c'est ce qui m'intéressait, de pouvoir publiciser ma personne, évidemment pas dans des perspectives de succès ou de quelconque notoriété, mais véritablement le terme public dans la manière dont il s'oppose à la question privée, à la question domestique. J'étais très consciente de ça, j'étais très consciente qu'il y avait deux espaces et que l'un était évidemment plus enviable que l'autre.
Vous êtes donc autrice de livres et donc objet potentiel de votre propre champ de recherche. Vous dites que la sociologie vous aide à vous renseigner sur l'espace dans lequel vous vous trouvez. Pour vous, c'est vraiment une arme qui vous sert au quotidien?
Si je me souviens des premiers enseignements de sociologie que j'ai réussi à Strasbourg, c'était une sociologie fortement marquée par la pensée marxiste. Et je crois que cela m'a frappée parce que on parlait de possibilités d'émancipation, on expliquait ce que signifiait une potentielle révolution prolétarienne. Et ça dessinait un horizon qui m'intéressait. Ensuite, évidemment, les choses se sont précisées et ont gagné en profondeur et en complexité. Mais j'ai eu le sentiment que c'était une manière de lever des déterminations qui pesaient sur moi, d'un point de vue très matériel, d'un point de vue très, très immédiat, très concret, très quotidien. Et c'est cette idée de bénéficier de leviers ou de tenter d'en construire pour soi, de manière parfois très, très intime, qui me parlait. Parce que sinon, nous sommes complètement dépourvus. Sinon, j'étais complètement dépourvue d'armes, effectivement.
Votre travail universitaire s'axe rapidement sur la littérature algérienne. Pourquoi cet attrait? Est-ce une façon de rendre hommage à Bourdieu qui a lui aussi travaillé sur l'Algérie au début de sa carrière?
C'est vrai.
J'arrête de parler de Bourdieu à partir de maintenant, c'est la
vrai,
dernière
Bourdieu
fois.
Bourdieu a travaillé en Algérie, il en a écrit un ouvrage d'ailleurs. Disons que j'avais ressenti une forme de frustration à l'égard de romans que j'avais lus et qui ne parlaient pas de moi, qui ne parlaient pas de moi au sens collectif de ce moi, qui ne racontaient pas ce que moi je pouvais observer au quotidien, dans ma famille ou dans un proche immédiat. Donc je crois que ce passage progressif vers la littérature algérienne, c'était aussi une manière de me resituer par rapport à des formes de mêmeté ou par rapport à des formes semblables qui m'informaient de quelque chose auquel par ailleurs je n'avais pas accès puisque certaines formes silencieuses dominaient sur un certain nombre de sujets et que cette littérature, elle me semblait révolutionnaire, vraiment.
Elle parlait de quelque chose dans lequel vous vous reconnaissiez sur votre famille, par exemple?
Elle me parlait dans ce que Rachid Boudjedra, par exemple, appelle une conscience malheureuse. C'est-à-dire ce sentiment d'une forme de mélancolie, de difficulté de vivre et d'affirmer son existence au regard justement de la force et de la puissance de la domination, en l'occurrence la politique, qui était vécue. Et j'étais très soucieuse à la fois de comprendre ce qu'il se passait et en même temps, l'Algérie ce n'est pas du tout mon histoire familiale. Mes parents sont originaires du Maroc. Donc en même temps, ça m'a aussi permis de faire une sorte de pas de côté par rapport à l'histoire familiale justement, et de me créer une nouvelle famille, de me créer un nouvel imaginaire, de me créer un nouvel espace.
J'aimerais qu'on écoute une voix maintenant.
J'avais une intuition au départ, et en fait de découvrir que la langue française me servait à penser, à vivre, à d'une certaine façon, à être dehors. Mais un jour, je découvre qu'en fait, je n'arrive pas à dire des mots d'amour dans cette langue. Comme si, en réalité, tout le langage, toute la communication sentimentale, affective, intime, retourne à la langue de l'enfance, et dans mon cas particulier, à la langue de la mère. Et qu'en même temps, il y a, par rapport à l'arabe, il y a une nostalgie du vocabulaire amoureux. Quand je retrouve cette chair sonore, bon, à ce moment-là, je la récupère dans la langue française, en images, en rythme. C'est comme si je ramenais tout un secret arabe de l'affectivité et que j'essaye, finalement, en tâtonnant, de redonner au français langue intellectuelle ou conceptuelle, de lui redonner ce que j'ai perdu ailleurs.
C'était l'écrivaine Assia Djebbar en 1990. Est-ce que cet extrait vous fait réagir ?
Oui, Assia Djebbar, ici, se soumet à cet exercice qui implique un écrivain francophone et qui tente de délier, d'expliquer, d'exprimer son rapport à la langue française, puisqu'évidemment, c'est l'élément distinctif principal. Et le champ littéraire français est toujours très soucieux de pouvoir comprendre ce que des écrivains étrangers aiment dans la langue française. Ce qui est très intéressant avec Assia Djebbar, c'est que c'est un jeu auquel elle s'est toujours pliée. Il y a beaucoup de documents où elle explicite son rapport à la langue française en tant que femme algérienne et musulmane. Et en même temps, elle a aussi toujours tenté de résister à cette injonction en qualifiant la langue arabe d'une valeur qui parfois ne lui était pas clairement reconnue. Puisque la grandeur universelle de la langue française implique évidemment le particularisme, voire parfois des formes de minoration des autres langues. Et plus on avance dans la trajectoire d'Assia Djebbar, plus progressivement elle tente de retourner ce stigmate-là et de revaloriser ce qui, jusqu'à présent, était présenté comme sans valeur. Et c'est notamment le cas du discours très important qu'elle fera lors de sa réception à l'Académie française, où elle dit qu'elle doit aussi beaucoup à sa lecture enfantine du Coran et que la musicalité des versets qu'elle répétait dans sa tête enfant a quelque chose à voir avec son écriture. Et 60 ans auparavant, évidemment, ce sont des choses-là qu'elle ne pouvait pas dire.
Et elle a été très critiquée pour cela. On l'a traitée d'ingrate, hein, littéralement.
Oui, des journalistes français.
C'était en 2005, c'est ça qu'elle est rentrée à l'Académie française.
2005-2006, hein, ouais, exactement.
Donc 15 ans après l'extrait qu'on vient d'entendre.
Tout à fait. Des journalistes très peu avisés avaient titré à l'époque qu'Assia Djebbar replongeait l'épée dans la plaie parce qu'elle avait rappelé. Mais dans un contexte très particulier aussi, c'est le contexte des années 2005, c'est le contexte de ce fameux mois de février 2005 où il était question d'inscrire au programme scolaire le rôle positif de la colonisation. Et évidemment, Assia Djebbar est très consciente de ce contexte-là et elle tient absolument à se positionner contre.
Alors si j'ai voulu qu'on parle d'elle maintenant, c'est parce qu'elle était l'objet de votre thèse, aux côtés de Kateb Yassine, dont on parlera tout à l'heure. Donc votre thèse s'intitulait « La formation de la croyance en la valeur littéraire en situation coloniale et postcoloniale, étude des trajectoires des écrivains algériens francophones, Assia Djebbar et Kateb Yassine ». Est-ce qu'en tant que femme écrivaine d'origine marocaine, vous identifiez à Assia Djebbar ?
Non, je m'identifie pas à grande chose et je crois que d'ailleurs c'est une forme de difficulté puisque je suis toujours en train de penser ce à quoi il faut que je m'identifie et ce à quoi il ne faut pas que je m'identifie parce qu'il se joue là aussi des formes d'assujettissement inconscient. Donc c'est toujours très difficile pour moi de dire je m'identifie à Assia Djebbar parce que ça voudrait dire que parce qu'elle est femme et parce qu'elle est arabe et que je partage cela avec elle, il y a immédiatement un lien qui se construit. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Ce qui m'intéressait beaucoup dans cette perspective, c'était surtout sa trajectoire extraordinaire. Extraordinaire au sens où elle fait partie de ces rares écrivaines originaires d'Afrique du Nord qui réussi à décrocher ce que certains appelaient l'honneur suprême, c'est-à-dire de devenir un immortel parmi les immortels. Et cette trajectoire-là, qui paraissait dans les articles littéraires, lors des conférences, très simples, très naturelles, il lui avait finalement suffi d'écrire pour que son talent soit reconnu, masquait en vérité un ensemble de contraintes, un ensemble d'épreuves, un ensemble de souffrances qui font aussi clairement partie de cette expérience que d'écrire quand on écrit en dehors de la France, quand on écrit sur la France, en langue française et sans être français. Donc il y avait là une forme de combinaison de dimensions qui m'intéressait beaucoup et auxquelles j'ai tenté de rendre une certaine forme d'intelligibilité.
Est-ce que dans l'approche qui est faite de votre œuvre littéraire, l'accueil qu'on vous réserve sur les plateaux de télévision, vous retrouvez certaines des caractéristiques que vous avez décrites dans votre travail sociologique ?
Oui, je crois même qu'il y a des liens entre les deux activités. Je crois que mon engagement très intensif au sein de la pratique sociologique, elle est liée aussi parfois à certaines expériences au sein du monde littéraire qui reste encore très très conservateur, très violent évidemment, très marqué par une certaine forme de misogynie, très marqué par des formes évidemment de racialisation, comme on pourrait dire, c'est-à-dire de nécessité de mettre en valeur l'autre à travers des formes de différences perçues, mais qui valorise surtout celui qui distingue, celui qui identifie la différence, alors que celui qui est différencié au départ ne le souhaitait pas, en tout cas ce n'était pas sa perspective. Donc évidemment que ce type d'expérience m'a beaucoup questionnée, interrogée, et que j'ai sûrement ressenti progressivement le besoin de le constituer en objet d'étude, c'est-à-dire de ne pas demeurer simplement sur des observations ou sur des sentiments ou des formes de constats récurrents, mais d'essayer de comprendre que ces éléments-là, la question des rapports entre fait littéraire et fait raciste, entre fait littéraire et fait sexiste, constitue une cohérence interne dont le champ littéraire permet l'étude et la compréhension.
Up.
C'était Jane qui pense que tout va bien se passer. All right.
Lorraine Bastide, les savantes sur France Inter.
Pour cette dernière partie de l'émission Kaoutar Archie, j'aimerais qu'on parle un peu plus longuement de votre plus récent travail, ce livre « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne » paru en 2017. Dans celui-ci, vous étudiez les trajectoires de 5 écrivains algériens qui ont connu le succès en France, Assia Djebbar, Kateb Yassine, Rachid Boudjedra, Boualem Sansal et Kamel Daoud. Et vous montrez bien que ces auteurs qui disent sont en réalité condamnés à être dits.
Oui, c'est une question à laquelle on pense, comme on le disait auparavant, de manière naturelle, comme si c'était écrit dans l'ordre des choses. Mais cette distinction entre littérature francophone et littérature française, en vérité, elle est complètement construite, elle est complètement instituée, et surtout, elle dessine une frontière entre ceux qui sont français de langue française et ceux qui sont des écrivains étrangers de langue française et qui du coup ont eu à se déplacer, parfois géographiquement mais aussi linguistiquement, dans cet espace qui est le champ littéraire français. Dès lors, ça implique des coups, des épreuves, des difficultés à surmonter, des stratégies à définir qui sont à supporter comme un travail supplémentaire en plus de l'écriture littéraire elle-même. Et cette distinction entre quelque chose qui serait universel et quelque chose qui serait particulier, les littératures francophones sont souvent considérées de cette manière-là, elles sont souvent condamnées ou pré-condamnées à dire l'identitaire, à dire la culture de l'écrivain, à dire les us et coutumes de son groupe supposé d'appartenance, pose très clairement la question de la littérature française, dans sa très longue histoire, comme une sorte de gigantesque fabrique de l'altérité sociale, à la fois pour les femmes, on peut en parler très clairement, et dans ce livre-là, effectivement, ce qui m'importait, c'était cette question algérienne, importé par le littéraire en France. Mmh.
Vous parlez de la francophonie, et c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie de façon presque machinale depuis qu'on est tout petit, on sait la francophonie à l'école. Mmh. C'est vraiment à la lecture de votre livre que j'ai compris à quel point ce mot fabriqué de l'altérité, vous venez de l'expliquer, on lui donne pour fonction de dire le local, j'allais dire presque l'exotique, mmh. quoi. Mais on lui donne aussi la fonction de l'allégeance à la langue française. Mmh. Tout à l'heure, on l'a vu avec Assia Djebbar, il y a vraiment cette volonté de faire dire à l'écrivain francophone tout ce que le français lui a apporté, comment le français l'a grandi en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Il y a une distinction qui est très visible, qui saute aux yeux dès lors qu'on s'y attache un peu, et j'accepte de le dire avec une certaine forme de grossissement, c'est qu'on sous-traite souvent l'amour de la nation française aux étrangers. C'est à eux qu'incombe le devoir d'aimer la France. Et les écrivains, effectivement, du fait de leur capacité à tenir des discours, du fait de l'importance que leur parole va progressivement prendre, sont souvent jugés, non pas tant sur leurs œuvres, non pas tant sur cette singularité de l'esprit qui les a conduits à écrire, mais sur leur rapport à la France, et plus précisément leur rapport à la langue française. Et si on est un tout petit peu attentif, on se rend compte que beaucoup d'écrivains, à travers le temps et dans une période plus proche de nous, ont effectivement bâti leur rapport à l'écriture comme une forme de mise en scène, en vérité, de leur rapport à la langue française et plus globalement de leur rapport à la France.
On va écouter un petit extrait maintenant.
La littérature algérienne, avant l'indépendance, et même aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent que c'est Albert Camus. Et il est vrai que, pendant longtemps, Albert Camus a représenté ce qu'on a appelé l'école d'Alger. Et c'était un homme de gauche. Simplement, les Français qui connaissent Camus, peut-être le connaîtraient mieux, le comprendraient mieux, s'ils le comparaient à un autre écrivain qui s'est trouvé dans la même situation, un écrivain américain, un grand écrivain, un autre prix Nobel, comme Camus, c'est William Faulkner. Voilà, là nous avons deux écrivains qui naissent dans des conditions à peu près semblables. Et on peut dire que Camus était d'origine plus modeste même. Enfin, Faulkner était un fils de colon, dans le sud des États-Unis. Il était dans la même position à peu près, dans la même situation fausse, c'est-à-dire, il vivait parmi les Algériens, Faulkner vivait parmi les Noirs du sud des États-Unis. La grande différence, c'est que Faulkner parlait la langue des Noirs. Il emploie même dans ses livres l'argot des Noirs des États-Unis. Il les connaissait. Il était resté raciste, il avait des relents racistes. Mais dans ses livres, il se débattait avec ses nègres, avec ses Noirs. Il essayait de les comprendre, et il les comprenait souvent. Et ça ne l'empêchait pas de les haïr. Par contre, chez Camus, d'un côté, il était pour nous, pas pour l'indépendance, mais enfin, pour les indigènes, pour être moins brutal, moins raciste. Mais c'était au fond une position morale, seulement morale. Parce que dans l'œuvre de Camus, on peut voir facilement que les plus belles pages de Camus, c'est quoi? C'est Tipaza, c'est la plage, c'est le paysage, l'Algérie est belle, mais il n'y a pas de peuple, on ne voit pas le peuple algérien. Dans les livres de Camus, le peuple algérien est pratiquement inexistant.
C'était Kateb Yassine. L'extrait était un peu long, mais je tenais vraiment à le mettre en entier parce que je trouve que tout est dans ce qu'il dit, en fait. Il parle très peu de temps après l'indépendance de l'Algérie dans cet extrait.
Oui, on voit là s'exprimer tout le rapport ambigu de Kateb Yassine, mais d'un nombre plus important aussi d'écrivains algériens, à cette figure rendue centrale qu'est Albert Camus. Et on les voit effectivement ici tenter de situer Albert Camus, c'est-à-dire tenter de se distinguer de lui, tout en considérant que le fait de ne pas soutenir littérairement Camus implique d'en proposer une forme de problématisation politique. Et c'est ce que je trouve toujours fascinant, c'est ce qui fait que ces questions-là me j'ai toujours l'impression de les redécouvrir, j'ai toujours l'impression de réentendre Kateb Yassine pour la première fois. C'est cette sorte de difficulté ici incroyable à tracer un trait, à mettre en place une forme de démarcation entre ce qui serait de la littérature et ce qui serait l'ordre social contesté. Et c'est cette difficulté-là à marquer une marque, justement, qui me fait dire que plus que jamais, le fait littéraire apparaît comme un analyseur du social, des plus importants, parce que par définition, la littérature se présente comme apolitique, comme asociale. C'est un appareil idéologique, comme dirait Althusser, qui dénie le pouvoir qu'il possède et qui, de cette manière-là, redouble ce pouvoir et s'affirme de manière encore plus violente. Donc je crois qu'effectivement, face au conservatisme littéraire, face au sexisme et aux formes d'altérisation raciale qu'elle produit continuellement, il faut absolument opposer une autre forme de perception du littéraire.
Vous dites souvent la littérature est une idéologie, c'est-à-dire que c'est un lieu, une espèce d'institution qui a le pouvoir de décider en fait de ce qui y rentre, mais de ce qui n'y rentre pas aussi. C'est un petit peu ça que vous nous expliquez.
Oui, tout à fait. Historiquement, il est très évident, il suffit de se conférer aux travaux d'Anne-Marie Thys, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur la question des nationalismes et qui montre comment, effectivement, le nationalisme qui a permis la construction de la nation française s'est très, très fortement appuyé sur la question littéraire. Et que la France est donc cette nation littéraire qui s'est nationalisée par rapport aux autres États européens. Donc c'est une forme de nationalisation de la France par internationalisme, c'est-à-dire qu'on va chercher des choses chez les Italiens, chez les Anglais, chez les Allemands, etc. Et on va aussi chercher d'autres choses par internationalisation toujours, dans des territoires encore plus lointains. Et c'est là où la question coloniale surgit, les expéditions coloniales, le mouvement de l'orientalisme. C'était aussi une manière de créer la France en la distinguant de ces indigènes, entre guillemets, en les distinguant de ces populations-là. Donc évidemment qu'il y a là quelque chose d'idéologique qui s'exprime et qui s'exprime continuellement. Les polémiques qui entourent certains écrivains français ont souvent pour racine cette question-là. Si on se souvient par exemple de la polémique qui avait entouré Marie Ndiaye lorsqu'elle avait affirmé que la France de Nicolas Sarkozy et de Brice Hortefeux était monstrueuse, un député avait considéré que Marie Ndiaye devait être soumise à un droit de réserve en tant qu'écrivaine, être une forme de vitrine touristique pour la France. Ce qui est très intéressant parce qu'évidemment, c'est tombé sur Marie Ndiaye et pas sur une autre.
Sur une femme noire.
Oui.
Je voulais qu'on entende aussi Kateb Yacine parce que on sent dans votre livre que pour vous c'est vraiment l'exemple ultime. Et il y a un épisode en particulier qui se produit en 2003 à la Comédie Française. Donc Kateb Yacine, faut quand même rappeler que c'est un immense dramaturge. Il a eu une grande carrière. Il a vendu des livres. Il a été joué en France dans les années 60, 70, 80. Et donc en 2003 à la Comédie Française, qu'est-ce qui se passe?
Alors, cette année 2003 est une année très particulière. C'est l'année de l'Algérie en France, qui elle-même résulte d'un certain nombre de discussions et de tractations entre le président Jacques Chirac et le président Abdelaziz Bouteflika. Quoi qu'il en soit, cette année est entièrement dédiée sur le plan culturel à l'Algérie. Concerts de rail, chorégraphie, pièces de théâtre, etc. Et une note particulière est donnée, puisque on décide, un certain nombre d'acteurs culturels, de célébrer Kateb Yacine à titre posthume, puisque Kateb Yacine est décédé en 1989. Le discours public qui est affirmé, c'est que Kateb Yacine va entrer officiellement au répertoire de la Comédie Française. Et le répertoire de la Comédie Française, c'est un répertoire extrêmement prestigieux et considéré par beaucoup comme le temple du théâtre classique. Cette entrée donc de Kateb Yacine dans cet espace signale, ou en tout cas signalerait, une forme de consécration des plus importantes. Simplement, lorsqu'on consulte les archives, lorsqu'on fait un travail un peu archéologique, d'aller voir qui a participé, ce que chacun a pu dire ou ne pas dire de cette histoire, on se rend compte qu'en vérité, Kateb Yacine n'a pas intégré le répertoire de la Comédie française, à tel point que son dossier, le dossier qui accompagne toutes les cérémonies qui ont eu attrait à son œuvre et à sa représentation, sont classés dans un classeur qui porte la mention « représentation exceptionnelle ». Et j'ai toujours trouvé que cet adjectif d'exceptionnel renvoie exactement à ce qui est problématique, c'est-à-dire que son intégration est exceptionnelle. Elle ne renvoie à aucune règle, ou en tout cas, plus précisément, elle renvoie à la règle qui crée le problème. C'est-à-dire qu'ils sont absents, les auteurs de ce corpus-là sont absents de cet espace. On peut dire donc que la reconnaissance de Kateb Yacine a bien eu lieu, mais comme je l'explique dans le chapitre qui lui est consacré, c'est une reconnaissance qui n'est pas complète, qui demeure inaboutie, qui est tronquée. Et c'est cette ambivalence-là qui interpelle. Qu'a-t-on voulu reconnaître? Est-ce qu'on a voulu reconnaître l'écrivain, l'artiste, dans son individualité qu'il a toujours réclamée ou revendiquée? Ou est-ce qu'on a voulu reconnaître autre chose? Une forme de grammaire de la réparation, d'un traumatisme socio-historique qu'on ne peut plus résoudre, ou en tout cas qu'on a du mal à résoudre sur le plan politique, et on délègue à la culture, on délègue à ces acteurs-là la nécessité de revaloriser. Mais on voit bien que la valeur de la valeur, elle est problématique, elle pose question, elle interpelle.
Vous vous rappelez aussi que le soir où on est censé le célébrer à la Comédie Française, on ne joue même pas une de ses pièces en vrai. On fait une espèce de florilège de ses meilleurs textes, de ses poésies, de quelques écrits de ses pièces de théâtre. Donc en fait, comme vous dites, la reconnaissance est tronquée. Et vous parlez de prétexte, c'est-à-dire que ce n'est même pas lui dans le texte, c'est une forme de prétexte, avec le double sens évidemment que ça induit.
Oui, effectivement, salle Richelieu, salle qui cristallise à elle-même toute cette institution théâtrale, effectivement, ce qui est monté sur scène, c'est une sorte d'assemblage, d'entretien de Kateb Yacine, de morceaux de poésie, de parties romanesques, de parties dramaturgiques. Et effectivement, ça pose question et ça signifie finalement que quelque chose n'est pas réglé. La difficulté à nominer, la difficulté à donner une place par la suite, elle est complètement ici visible. Et donc, au-delà même du cas de Kateb Yacine, ce qui est appelé, c'est une sorte de nécessité de réenvisager les rapports de la littérature française avec cette altérité, avec ses frontières. La littérature française a des frontières qu'elle défend ardemment, comme la France.
Vous avez depuis quelque temps entamé un nouveau travail au contact des détenus dans les prisons. Vous travaillez sur la lecture et l'écriture au sein des prisons. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux champs de recherche que vous avez explorés? Un point commun?
Je dirais que le point commun, c'est peut-être effectivement la question de du placement. C'est-à-dire que les écrivains algériens, précédés comme ils le sont par leur nom, le nom sous la couverture et précédée par l'histoire algérienne comme elle est, les place de fait dans une certaine partie du champ littéraire et leur travail, et de pouvoir par la suite développer une forme de mobilité, de pouvoir aller voir ailleurs pour leur propre intérêt, etc. Pour les détenus, la question, elle est évidemment différente. On est évidemment dans une situation sociale très largement distincte. Néanmoins, ce qui m'a intéressée dans cette étude-là, que j'essaye de réaliser actuellement, c'est encore une fois la question de la place. C'est-à-dire que la lecture, l'écriture en prison apparaît être importante pour une partie de la pénitentiaire, et en même temps, pas tant que ça. Donc il y a une sorte de nécessité pour les détenus de trouver des formes d'humanisation, de retrouver des formes de socialisation dans des contextes où évidemment ces questions-là sont très importantes. Donc même si évidemment il n'y a pas de calque à établir entre la recherche initiale et la seconde, dans tous les cas on observe des dominations. Dans tous les cas on observe une forme de volonté de définir de manière très légitime ce qu'est le livre, ce qu'est le bon livre, ce qu'est le livre français, ce qu'est le livre algérien. Dans un autre cas, ce qu'est la nécessité de lire et d'essayer de comprendre évidemment comment ça résiste, comment ça tente malgré tout de déployer ou ne serait-ce que de conserver une marge de manœuvre.
J'ai très hâte de lire cette étude.
Moi aussi.
Merci beaucoup, Kaoutar Archi.
Merci à vous.
Merci beaucoup Kaoutar Archi d'avoir été mon invitée dans Les Savantes. Je rappelle que votre livre « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne » chez Fayard est disponible dans toutes les bonnes librairies. Toutes les informations concernant l'émission sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'émission en ligne et bien sûr la podcaster avec votre application préférée. Cette émission a été réalisée par Coy Nguyen et préparée par Perrine Malinge, avec aujourd'hui à la technique Florent Layani. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. Merci à vous d'avoir écouté Les Savantes. Bon après-midi, à samedi prochain. Nous partirons dans les étoiles avec l'astrophysicienne Sandrine Gerlet.